au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Nous sommes vendredi et si j'en crois la nouvelle formule de nos rendez-vous quotidiens au cœur de l'histoire, c'est aujourd'hui que Franck Ferrand va conclure son feuilleton sur la saga Charlie Chaplin et je suis triste. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. On l'est tous un peu, c'est vrai que c'est à regret que nous allons quitter Chaplin et son merveilleux univers, mais vous pourrez, si vous le souhaitez, réécouter le grand destin du magicien du cinéma muet demain, samedi, à 14h. Désormais, tous les samedis, on reprendra la saga de la semaine. Et puis, dès lundi, nous allons ressusciter un autre personnage hors du commun. Je vous dirai qui c'est tout à l'heure.
Allez, un peu de patience. Et avant cela, cher Franck, vous aurez reçu un spécialiste des affaires maritimes, Dominique Lebrun.
Oui, vous avez peut-être entendu parler il y a quelques jours de ce sous-marin coulé dans la Manche en 1912 et dont on vient de retrouver l'épave au nord-ouest de la presqu'île du Cotentin. Je suis heureux que Dominique Lebrun puisse être avec nous cet après-midi pour nous en dire un peu plus à son sujet.
Et j'imagine qu'il va réagir aussi à l'histoire inouïe que vous nous avez préparée, Franck.
Et oui, évidemment, nous allons filer en mer tout de suite à l'extrême pointe de la Bretagne, à l'ouest de l'île de Sein. Vous savez que l'île de Sein est déjà très à l'ouest elle-même, donc on est vraiment parti en plein océan afin de revivre les heures les plus périlleuses d'un phare édifié au péril de la mer.
Vous savez quoi, Franck ? Ce foisonnement me ravit.
Eh bien, ça tombe bien, moi aussi.
Europe 1,
14h, 15h, au cœur de l'histoire,
Franck Ferrand.
Avec ses 33,50 m de haut, le phare d'Armen n'est ni le plus grand, ni le plus imposant des édifices maritimes, mais c'est l'un de ceux dont l'existence semble le plus miraculeuse. Armen se dresse tout au bout de la Bretagne, sur un îlot rocheux minuscule, donc à l'ouest de l'île de Sein, je vous le disais, et disons-le, c'est en soi un exploit, un défi. Une légende, de loin battue par les embruns, ce phare ferait songer à une frêle brindille blanche constamment battue par les flots, car ils sont souvent déchaînés les flots en cet endroit. Pourtant, bien que soumis aux pires caprices d'une mer tempétueuse, le petit phare tient sa place, hardiment, sans frémir. À le voir ainsi, on comprend que sa construction poursuivit plusieurs décennies durant, à la fin du 19e siècle, on en dira un mot tout à l'heure, on comprend que cette construction ait pu être la grande aventure de son temps. Depuis lors, l'histoire d'Armen a été ponctuée de drames et d'exploits. Depuis 1990, le phare est automatisé, mais jusqu'à cette date, il ne fonctionnait que grâce au courage des gardiens qui acceptaient de s'y relayer. Des hommes solides, rudes, capables d'affronter des conditions dantesques, mais néanmoins des hommes avec leurs limites humaines. En 1923, à la fin de l'automne, trois d'entre eux vont pouvoir les mesurer, ces limites. Je vous propose de faire leur connaissance. Le premier s'appelle François le Pape. Il est rescapé de la Grande Guerre, il y a perdu une jambe et depuis il ne se déplace qu'à l'aide d'un pilon. Pour vivre au sommet d'un phare de haute mer, vous avouerez qu'on a connu plus facile. Il a avec lui deux acolytes pleinement valides, Henri Loussouarne et Hervé Menou. Comme lui, ce sont des hommes tenaces, courageux. Trois hommes donc pour veiller sur ce phare. Leur travail est dur, c'est certain, mais on peut penser que ce travail, ils ont appris à l'aimer. Ils se sont habitués à un quotidien pour le moins austère. Ils vivent coupés du monde, loin de leurs proches. La plupart des journées sont assez routinières, mais de temps en temps survient une épreuve, une passe difficile, et on est loin soudain de toute routine. Comme ce terrible après-midi de décembre, il fallait bien qu'on y vienne, que voulez-vous. Je vous l'ai dit, nous sommes en 1923, cela fait près de 4 semaines que la tempête fait rage, 4 semaines que l'océan fouette le petit phare sans aucun ménagement. Certes, il est habituel qu'en ces débuts de saison plus froide, la météo soit instable, on est tout de même au bout du monde, en tout cas au bout du continent, sur ce caillou de haute mer, loin des terres habitées. Vous imaginez ce que représentent 4 semaines de tempête dans de telles conditions. Évidemment, dans ces périodes d'océan démonté, pas question d'envisager le moindre ravitaillement. Aucun marin ne pourrait s'approcher d'Armen sans risquer la mort. Alors, À mesure que s'empilent les jours de tempête, les trois hommes ont de plus en plus de mal à cacher leur inquiétude. Les vivres doivent être rationnés peu à peu et il va bientôt falloir taper dans les réserves. Si encore nos gardiens étaient en pleine forme, seulement pourquoi le cacher ? François, l'invalide de guerre, François ne va pas bien du tout. Depuis des jours, la fièvre ne l'abandonne plus. Sa conversation s'en ressent, ses propos sont de plus en plus décousus et ses deux camarades l'entendent ressasser ses histoires, vous savez, la guerre, le front, les assauts. Les pertes. Il a les yeux rougis quand il parle de tout ça. Il évoque aussi les drames du phare d'Armène. Déjà presque 3 ans que Plouzenec a été emporté. Oh, il a suffi d'une vague et paf, l'océan l'a avalé. Quelques secondes et c'était fini. À quoi ça tient une vie de gardien de phare ? Ses deux compagnons se regardent, l'air désolé. Voilà plusieurs heures qu'ils ont hissé le drapeau noir. Le drapeau noir, c'est le signal d'urgence. L'appel à la terre, ou plutôt à l'île la plus proche, appel d'ailleurs bien repéré depuis l'île de Sein. Ils ont même aperçu un bateau qui a tenté la traversée pour venir à leur rencontre, mais ils l'ont vu très vite faire prudemment demi-tour. Ce jour-là, vers 15h30, nos deux compères décident de laisser le malade se reposer. Eux retournent à leurs activités. Henri descend à la cuisine. Hervé se lance dans diverses procédures en vue de l'allumage du feu. Et là, surprise, il est bientôt rejoint par François qui, bien que faible et toujours transpirant, a l'air de se sentir mieux. C'est en tout cas ce qu'il prétend. « Je veux aider, dit-il. Laisse-moi donc mettre la main à la pâte. » Inutile d'essayer de le renvoyer au lit. Le mutilé de guerre est une vraie tête de mule. Vers 17h, Henri remonte de la cuisine. C'est le moment pour les trois hommes d'effectuer les dernières vérifications d'usage. On est en plein hiver, au début de l'hiver plus exactement. La nuit s'apprête à tomber. Alors ils mettent un nez dehors sur la balustrade à proximité de la lanterne du phare qui est déjà allumée. Ça souffle même terriblement. Il y a intérêt à bien se tenir au bastingage. La mer est bien trop déchaînée pour qu'un bateau tente de les rejoindre. C'est plus l'heure d'espérer de toute façon demain, peut-être. Au moment où il rentre dans la salle de veille, Hervé demande « Vous sentez pas une odeur bizarre ?» On regarde machinalement vers l'escalier en spirale et là il y a de la fumée. « Nom de Dieu, les gars, il y a le feu dans la cuisine !» D'instinct, les trois hommes s'élancent dans l'escalier. Ah, mais il est déjà trop tard pour empêcher le feu de se propager. Ils n'ont aucune visibilité parce que ça y est, la fumée monte et déjà, les flammes leur bloquent le passage. Ça tousse même beaucoup dans la salle de veille où il a bien fallu se réfugier. La situation qui était pénible devient critique. Henri, qui est pâle comme un linge, prévient ses compères. « La cave à fioul, dit-il. Si on ne fait rien, le feu va l'atteindre. Et là, tout va sauter. » Déjà, des bruits inquiétants remontent des étages inférieurs du phare. Des craquements de poutres, vous savez, des bris de fenêtres qui cèdent déjà sous l'effet de la chaleur. François n'a plus l'air malade du tout. Comme ragaillardi, il prend les choses en main. Après tout, la guerre lui a donné l'expérience des situations critiques. « On va pas se laisser mourir ici, dit-il. La cave, on va l'atteindre avant que ça explose. Eh bien, si on peut pas passer par l'escalier, on n'a qu'à essayer par l'extérieur. » Les deux autres se regardent consternés. « Non mais il est devenu fou l'estropié. Déjà, François le Pape a ouvert la petite porte qui donne sur la balustrade. La tempête, est terrible, plus violente que jamais. Le danger est extrême. Peu importe, lui a l'air bien décidé. »
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Reviens dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Et cet après-midi, Franck, vous nous racontez l'incendie du phare d'Armène. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on récapitule ce qui vient de se passer. Le feu a pris dans la cuisine et dans l'escalier du phare d'Armène. Ces trois occupants sont donc coincés au sommet. En bas, la cave à pétrole risque d'exploser à tout moment. Ils décident donc de passer par l'extérieur. À l'extérieur, il y a quand même la tempête, ça c'est un détail. Mais moi, il y a un autre détail qui me chiffonne. L'un des trois est un mutilé de guerre, vous l'avez dit. Il a donc une jambe en moins, une jambe de bois. C'est quand même étonnant qu'on l'ait affecté à un poste de gardien de phare.
Oui et non, ça n'est pas si étonnant que ça si on se resitue dans le contexte de cette époque. On est en 1923, très peu de temps après la fin de cette Première Guerre mondiale. Il faut savoir qu'il y a eu énormément de blessés et de mutilés, bien sûr, pendant la Grande Guerre. Et on leur a réservé ce qu'on appelle un certain nombre d'emplois réservés, des postes dans diverses administrations, postes de vendeurs de journaux, de vendeurs de billets de loterie. Ça, c'était réservé aux gueules cassées, vous savez. Mmh. Beaucoup de postes de gardiens de musée. C'est la raison pour laquelle les gardiens et les guides de musée, pendant très longtemps, faisaient un peu rire les enfants, vous savez, parce qu'ils avaient un côté souvent un peu pantelant, comme ça. Et puis, donc, des gardiens de phare. On considérait sans doute que le métier était relativement paisible. C'est assez discutable lorsqu'on voit ce qui peut se passer de temps en temps. Notre François, là, se mutilé de guerre et vient de quitter la salle de veille tout en haut du phare. Il rejoint donc la coursive extérieure, vous savez, qui est battue par le vent océanique. La plateforme qu'il faut atteindre est en bas, tout en bas, à une trentaine de mètres plus bas. Ben oui, mais quoi faire d'autre ? Sous les yeux qu'on peut imaginer exorbités de ses deux camarades valides, François s'accroche au câble du paratonnerre. La nuit est en train de tomber, la mer mugit en contrebas, la pluie s'abat par paquets glacés sur le phare, le vent souffle en tourbillon, et puis il y a toujours ces vagues démesurées qui paraissent vouloir engloutir la frêle tour blanche. François ne se laisse pas impressionner par tout ça. Il a l'habitude, vous me direz. Comme le dira Louis Le Quinf, qui a écrit le récit de cette soirée d'enfer, François n'a qu'une jambe, mais les bras sont solides. Calmement, il se laisse glisser le long du câble conducteur. Henri, il faudrait pas qu'il y ait d'ailleurs un coup de
tonnerre.
Henri et Hervé ne vont pas rester là à le regarder faire. À l'intérieur, le feu progresse en plus. Alors, ils vont y aller à leur tour. Pour leur part, ils choisissent d'utiliser le câble de ravitaillement du phare qui lui aussi descend jusqu'à la plateforme. Ce qui veut dire qu'en un instant, ils se retrouvent littéralement suspendus dans le vide. À chaque seconde, ils peuvent déraper. L'humidité peut les faire glisser. Leurs mains sont serrées sur ce filin métallique. Ils ont la sensation que leurs doigts sont cisaillés. Mais l'essentiel, c'est qu'ils descendent, eux aussi. Ça va durer longtemps, bien sûr, plusieurs longues minutes d'efforts intenses, peut-être les minutes les plus longues que ces hommes aient jamais vécues. Enfin, les trois parviennent, sains et saufs, sur l'étroite plateforme du bas. Ils sont maintenant juste au-dessus du niveau de la mer, mais une mer en furie, je vous l'ai dit. Il faut pourtant lâcher les filins. François, Henri et Hervé reprennent difficilement leur souffle. Et soudain, une lame de fond, ça il fallait s'y attendre, une vague vient les heurter de plein fouet. Puissance formidable. C'est la rambarde de la plateforme qui va les sauver de justesse. Il y en a un qui se rattrape vraiment au dernier moment. Les trois hommes, détrempés, échangent un pâle sourire pour se rassurer mutuellement. Chacun a en tête ce que racontait François un peu plus tôt dans l'après-midi. Vous savez, c'est sur cette plateforme qu'il y a 3 ans, un de leurs devanciers a été emporté par l'océan, justement. L'engourdissement les guette aussi. Malgré le froid, l'épuisement, il ne faut surtout pas baisser la garde. Un seul moment d'inattention et ça pourrait être la fin. Les trois hommes s'approchent comme ils peuvent de la porte d'entrée du phare, la petite porte en bas. C'est un battant de bois très épais qui éclot de l'intérieur, malheureusement, évidemment, par un verrou très solide. Le temps presse. À l'intérieur, le feu, lui, est en train d'augmenter, de progresser. Il s'approche de la fameuse cuve à fioul. Combien de minutes reste-t-il avant que tout ça n'explose, ne parte dans un fantastique tonnerre ? 30 minutes, 15 minutes, 5 ? Aucun moyen de savoir. L'urgence, c'est de faire céder cette maudite porte. Alors on va les voir frapper, mais quand je dis frapper, vraiment de toute leur force. Au-dessus d'eux, une fenêtre est en train d'éclater sous l'effet de la chaleur, des débris de verre leur pleuvent sur la tête, il faut pas y prêter attention, faut continuer à frapper, taper contre cette porte encore et encore. La porte, après d'interminables minutes, cette porte marque des signes de faiblesse. Allez, encore un effort, on y est presque en effet. Dans un craquement libérateur, le battant finit par céder. Les trois hommes s'engouffrent. Oh, pas pour longtemps. Ils n'avaient pas prévu que l'appel d'air généré par l'ouverture de la porte allait faire une sorte d'effet de cheminée, si vous voulez. Ça active la fournaise. Et eux qui, 30 secondes plus tôt, grelottaient, claquaient des dents, les voilà maintenant assaillis par une chaleur insupportable. Et instinctivement, puisqu'ils sentent leur peau les brûler, ils retournent sur la plateforme. Mais tout ça est un véritable enfer. Comment voulez-vous, à ce stade-là, ne pas céder au désespoir. Savent, l'incendie est déjà maître du bâtiment, tout reste à faire, aucun secours n'est à espérer en provenance de l'île de Sein avant de très longues heures. Ils n'ont pas le choix, il va falloir lutter. Alors, sans se poser de questions, les trois hommes récupèrent des seaux de secours et ils commencent à mettre en place une espèce de noria. Inlassablement, il y en a un qui remplit les seaux d'eau de mer, le deuxième qui les achemine jusqu'au troisième qui va les vider sur les flammes. Ce qu'il en reste en tout cas après avoir transbahuté tout ça. À l'intérieur, à tout moment, des débris incandescents peuvent dégringoler et les assommer. La chaleur, je vous l'ai dit, est suffocante. La fumée rend l'atmosphère irrespirable. Les trois gardiens sont en nage, dans un état épouvantable. Mais l'espoir renaît, car leurs efforts ne sont pas vains. Pas à pas, ils progressent, ils gagnent du terrain. Il n'aura pas fallu si longtemps pour que l'entrée déjà redevienne accessible. Ils ont au moins la satisfaction de constater que le plan de François était le bon. C'est bien ce qu'il fallait faire. Un passage est dégagé, peu à peu, dans le premier tronçon de l'escalier à vis, jusqu'à la cuisine, vous savez, cette fameuse cuisine d'où le feu est parti. Leur objectif essentiel, c'est circonscrire le sinistre le plus loin possible de la cuve à fioul, bien entendu. Eh bien, cet objectif, il va être atteint. Les trois hommes sont dans un état d'épuisement indescriptible. Plus ils montent dans l'escalier, évidemment, plus l'acheminement des seaux est éreintant. Dites-vous que les flammes, qui progressent de leur côté sans aucune peine, ont atteint la salle de veille tout en haut, en découvrant, à la fin de leur exploit, quand ils vont découvrir la pièce roussie en partie dévastée, les rescapés réaliseront à quel point l'initiative de François le Pape les a sauvés. Au matin, alors qu'un maigre soleil se lève sur l'océan toujours en colère, l'incendie est quasiment vaincu. Au terme d'une lutte épique de 17 heures, noir, hirsute, trempé, grelottant, tenaillé par la faim, écrit le Quinf. Les trois gardiens ont conscience d'avoir fait tout ce qui était humainement possible de faire. Ils ont empêché l'explosion du phare, mais à présent, dans leur tour noire et fumante, ils n'ont plus rien du tout. Et c'est tout le tragique de cette histoire. C'est qu'en l'absence de secours rapide, ils ne sont que des morts en sursis.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Europe 1,
au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Une histoire pleine de suspense cet après-midi. Franck Ferrand, vous nous racontez l'incendie du phare d'Armen. Alors, les trois gardiens de phare ont empêché l'explosion de leur phare. Ils viennent de combattre un terrible incendie, mais ils se retrouvent seuls. Que va-t-il leur arriver?
Oui, ça s'est passé tout ça en décembre 1923 et une attente terrible a commencé pour François, Henri et Hervé. Le phare est debout, mais à l'intérieur, tout n'est que cendre, c'est bien simple. Tout a brûlé, les meubles, les vêtements et forcément les vivres. Imaginez nos trois gardiens qui cherchent vainement un peu de nourriture ou quelques couvertures qui auraient échappé au sinistre. François est plus fiévreux que jamais, c'est notre unijambiste, vous savez. Il s'est tellement donné pendant toute cette nuit. Combien de temps pourra-t-il tenir? Non, vraiment, il faudrait qu'on vienne les chercher, qu'on y vienne vite, ce qui supposerait que la tempête se calme. Or, la tempête n'a pas l'air décidée du tout à vouloir se calmer. Henri remonte à la balustrade, histoire de faire le guet, et soudain, il rentre dans la salle de veille et il s'écrie « Un bateau! Il y a un bateau! Ils tentent le coup! Ils viennent nous chercher !» Les trois hommes sont fous de joie. Ils se précipitent à la rambarde et en effet, malgré la houle, cette houle effroyable, cette tempête qui aurait même tendance à redoubler encore, le baliseur Léon Bourdel est en train de faire une tentative d'approche. Magnifique élan de solidarité, mais qui échoue. Au bout de quelques minutes, le petit navire doit faire demi-tour, trop périlleux, et les trois gardiens le voient s'éloigner, la mort dans l'âme. C'est quand même une sinistre douche écossaise. L'espoir va renaître quand un remorqueur met le cap sur Armen. Nouvelle attente, nouvelle déception. Et revoici un baliseur au bout de quelques heures. Baliseur qui s'en va comme ça à l'assaut de l'océan déchaîné. Est-ce que cette tentative sera la bonne? Oui. Non sans mal, nos trois survivants devront encore accomplir un véritable exploit pour atteindre la coque de noix malmenée par les flots. Si vous le voulez bien, cet exploit-là, je ne vais pas vous le raconter. Je vous en fais grâce par pitié pour vos nerfs.
incroyable histoire, celle de l'incendie du phare d'Armen. Et l'air frais marin continue de nous rafraîchir cet après-midi sur Europe 1.
On en a besoin, vous me direz.
On en a bien besoin en cette journée de canicule, puisque Franck Ferrand, vous recevez Dominique Lebrun, qui est journaliste spécialisé dans le domaine maritime.
Oui, et que connaissent bien nos auditeurs. C'est un habitué, un pilier de cette émission. Bonjour Dominique Lebrun.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, ce phare d'Armen, il fait rêver, bien entendu, tous les marins, parce qu'il se trouve aux extrêmes limites du possible, si je puis dire, hein, loin dans l'océan, à l'ouest de cette île de Saint, et il a joué un rôle essentiel, il a sauvé de nombreux navires, il faut le dire.
Oui, puisqu'il se trouve construit complètement en dehors des dangers visibles de la pointe de Bretagne, mais là, à l'extrême ouest de l'île de Saint, il fallait trouver un petit rocher qui se découvre aux très très grandes marées, et là, d'année en année, on a commencé par faire des trous dans le rocher, mettre des barres de métal dans le rocher,
etc. Quand vous dites d'année en année, on avait raconté ça d'ailleurs, j'avais fait une émission il y a quelque temps avec Yann Kefelec, on avait raconté la construction du phare d'Armen, ça a été une œuvre de longue haleine pour les ingénieurs de l'époque, c'était un vrai casse-tête évidemment.
Alors c'était un casse-tête, mais c'était une époque où le temps n'avait pas la même signification qu'aujourd'hui.
Vrai, oui.
La nature avait dit que le rocher serait visible X fois par an, et ben on y allait X fois par an, mais surtout on ne ratait pas l'occasion.
Bien sûr, et on a essayé de sauvegarder comme ça un certain nombre de navires qui jusqu'alors avaient tendance à venir s'échouer sur les hauts fonds. Là.
C'est... Oui, parce que lorsqu'on approchait de Ouessant, qui n'avait pas encore de phare et qu'on arrivait du golfe de Gascogne, quelquefois avec du mauvais temps depuis une semaine, 10 jours, aucune point astronomique n'avait pu être fait, donc l'estime était extrêmement vaseuse, si j'ose dire, puisqu'il s'agit de rochers, et beaucoup de navires se sont mis sur les rochers comme ça, comme le Drummond Castle sur l'archipel de Molène, qui a abouti à la construction de phares vers Ouessant.
Je salue nos quelques auditeurs de l'île d'Ouessant, je sais qu'il y en a, et je signale à nos auditeurs qu'il y a sur l'île d'Ouessant un très beau musée des phares d'ailleurs, hein, qui mérite vraiment d'être visité. Ça fait partie des choses à voir sur cette île extraordinaire, totalement perdue dans l'océan, c'est un endroit extraordinaire. Les phares, nous y revenons en votre compagnie, Dominique Lebrun, puisque vous êtes venu avec dans vos poches, si je puis dire, le roman des phares paru chez Omnibus. Et puis, bien sûr, on va parler de cette épave de sous-marin de 1912 qui vient d'être découverte.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck Ferrand a décidé de rafraîchir l'atmosphère et ça fait du bien puisque nous sommes au bord de la mer pour parler des phares, mais pour parler également avec votre invité de ce sous-marin qui a coulé en 1912. Vous recevez Dominique Lebrun, journaliste et spécialisé dans le domaine maritime.
Alors on va parler du sous-marin dans un instant, mais quelques mots sur ces phares qui continuent de fasciner les gens. Il y a tout un langage des phares, bien entendu, Dominique Lebrun.
Ben oui, puisque avoir un phare c'est une chose, mais si vous avez la pointe de Bretagne, il y en a... des dizaines, des centaines. Donc chacun d'entre eux a son identité.
Son rôle.
Son rôle.
Sa position, bien sûr.
Sa position, mais surtout, pour se faire reconnaître, il a son type de langage, c'est-à-dire sa couleur. C'est-à-dire, est-ce que les périodes de lumière sont plus longues ou plus courtes que celles d'obscurité? Ou égales?
Une séquence. Hein, qui...
Une séquence. Mm-hmm. Une période, on appelle ça.
Une période, pardon.
Et puis
voilà,
ensuite,
chercher le mot.
C'est le terme technique. Et puis ensuite, on a donc soit un éclat, par exemple, tous les X secondes, ou alors plus compliqué, deux éclats plus un toutes les 25 secondes. Ce qui veut dire qu'il y a toute une technique qu'il faut acquérir quand on est marin pour savoir reconnaître un phare.
Bien entendu.
Et ça, c'est assez magique,
il
d'ailleurs.
Il faut dire que très souvent, les navires qui passent, qui croisent à proximité, sont habitués. Donc, ils connaissent les différents phares, ils les reconnaissent à l'œil sans grande réflexion, si je puis dire.
Pas
toujours,
simple.
Pas tous.
Oui, dans un port donné, oui, mais quand on est sur une côte qu'on a fréquentée plusieurs fois, on se souvient des principaux, mais les autres, pas forcément. Mmh. Et on vérifie.
Oui, je vois notre réalisateur qui regarde tout ça avec beaucoup, Jean-François Bussière, qui est lui-même marin maintenant,
oui.
Et qui a les yeux rivés sur les phares de la côte normande, il faut le savoir. Ce langage des phares est particulier. Pendant longtemps, il était le privilège des gardiens de phares. Il y en a de moins en moins de ces gardiens de phares, évidemment. Hein, puisque
il n'y en a plus.
Il n'y en a plus du tout.
Il n'y en a plus. Le dernier, c'est l'île Vierge qui a dû être abandonné en 2010, me semble-t-il.
Ah ben voilà, donc c'est fini.
Et encore, c'était des anciens. Et l'île Vierge était un phare où il y avait des gardiens pour qu'ils puissent aller jusqu'à leur retraite. Mais c'est tout. Mm-hmm. Non, c'est fini, c'est automatique. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ça fonctionne très très bien. Sauf que l'absence de personnes en haut d'une tour pour regarder ce qui se passe peut avoir des conséquences très gênantes.
Il y a une histoire qu'on aurait pu raconter, entre autres, hein, parce que votre livre en fourmille de belles histoires de phares, c'est le mystère du phare de Thévenec. C'est un phare hanté, dit-on.
En tout cas, je peux vous dire que l'administration des affaires maritimes a officiellement reconnu que ce phare était hanté et qu'à ce titre, il n'était plus question qu'il y ait de gardien. Comme à l'époque, il n'existait pas encore de système d'automatisation, on a allumé la lumière et on n'a plus jamais éteinte. Ouais. Ça valait mieux parce que ça faisait quand même plusieurs personnes qui étaient décédées.
Mais que se passe-t-il ? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on a une idée de le fin mot de cette histoire ?
Il y a un demi-fin mot. Il y a un demi-fin mot qui était que certains gardiens croyaient entendre dire en breton « Retourne chez toi, c'est pas ta maison ici ». Je ne sais pas dire en breton, désolé. En revanche, on a su que c'était l'air qui entrait dans des failles de rochers sous l'île avec la houle qui faisait ce bruit quand l'air comprimé passait à travers les failles. Mais c'est pas ce qui explique que des gens aient pu mourir de maladies, de morts violentes, de tout ce que l'on veut. Et là, il y a peut-être une question d'auto-persuasion, on ne sait pas.
Ça, c'est le phare de Thévenec. Dis bien, votre ouvrage s'appelle « Le roman des phares ». C'est vous qui le présentez avec des textes de beaucoup de grands auteurs, dont Alphonse Daudet, dont Henri Kefelec, bien entendu, dont Louis Le Quinf, dont je parlais tout à l'heure et que nous avons cité abondamment à propos d'Armène, tout ça chez Omnibus. Alors, il y a quelques jours, on a appris la découverte de cette épave. Ce sont quatre plongeurs d'Aumonville-la-Rogue. On est donc dans la Manche, pas très loin de Cherbourg, sur la partie nord-ouest de la presqu'île du Cotentin, qui découvre qui découvre le vestige de ce sous-marin de 1912. De quoi s'agit-il exactement, Dominique Lebrun ?
D'abord, dire cadavre me semble très juste.
Oui, c'est un peu ça.
Oui. De quoi s'agit-il ? D'un accident terrible qui a beaucoup marqué, parce que ça fait 24 victimes à l'époque, ce qui n'est pas énorme pour un sous-marin, mais c'était les premiers sous-marins. Et donc, on était encore...
Oui, 1912, on est dans les débuts, en effet.
C'est les 10 premières années du sous-marin utilisé de façon militaire. Et là, surtout, on s'est demandé ce qui était arrivé. Alors, l'histoire est la suivante. On est au printemps 1912, donc le premier jour de juin. Des grandes manœuvres sont prévues. Une force navale composée principalement d'un cuirassé est supposée vouloir remonter de la Manche, éventuellement attaquer Cherbourg. Et donc, de Cherbourg, on envoie 3 sous-marins à leur rencontre pour les torpiller. Pas pour de vrai, évidemment.
Non, c'est un exercice.
C'est un exercice. Ah, oui. Donc, à bord du Vendémiaire, le capitaine, lieutenant de vaisseau Prioul, fait un point avec son périscope. L'idée est la suivante, il fait un point, il sait où il est, entre sous l'eau, il devient invisible, en navigation à l'aveugle, avec le périscope, mais c'est pas suffisant, il se rapproche du cuirassé pour se mettre en position de tir, envoie ses torpilles et se dégage. Le problème, c'est que lorsque il remonte son périscope, juste avant d'envoyer ses torpilles pour voir le cuirassé est sur lui. C'est-à-dire qu'il va le couler. Il a 2 solutions. La première, ce serait d'essayer de descendre.
Sonder, comme on dit en...
Exactement. Il sait qu'il n'aura pas le temps de le faire, donc on chasse partout, comme on dit. C'est-à-dire, il remonte en surface.
C'est tout l'inverse, c'est ça.
Voilà, tout l'inverse. Il remonte en surface, il n'est pas haut, hein. Un sous-marin qui lance ses torpilles à quelques mètres sous la surface. Il lance donc, il remonte en surface. Le cuirassé le voit, essaie de l'éviter, le touche. On pense que la coque a été coupée en deux. La coque du sous-marin longe le cuirassé, dont le siège disparaît. À la place, on a une espèce de grosse bulle d'huile qui monte et d'air. Ça veut dire que le sous-marin, il est fichu, il a explosé. Et puis, l'affaire, elle, est close. Il y a 50 mètres de fond, on ne peut rien faire. En plus, dans cette zone, il y a beaucoup de courant, et c'est ce qui explique l'accident d'ailleurs. Donc le sous-marin va rester...
Combien de personnes dans l'équipage ?
24 au lieu de 25. Mmh. Un matelot était resté à terre pour une raison de corvée, je crois. Et ce qui va se passer, ce sous-marin va disparaître. On sait où il a coulé, mais ce que l'on sait, c'est qu'il ne peut pas être là où il a coulé, parce que les courants sont très forts là-bas. Et ce sont les courants qui expliquent, en fait, l'accident.
Comment est-ce qu'on l'a retrouvé, ce sous-marin ? C'est un pur hasard ?
Non, c'est pas un hasard. Il était cherché, parce que tous les naufrages, on les connaît.
Oui, bien
sûr. Il y a des spécialistes qui cherchent. Là, il y avait des gens qui vraiment avaient des gros moyens et qui entamaient une grosse recherche. Les 4 personnes qui ont fini par le trouver en avaient manifestement moins. Mais là, je suis pas bien sûr des informations qui sont toutes récentes. Le fait est que les images que l'on peut voir actuellement sur Internet des premières prises de vue sont stupéfiantes, puisque donc la coque est à peine couverte de concrétion et on revoit cette coque telle qu'elle était en 1912 et, surprise, il n'a pas été coupé en deux. Il a juste eu une brèche sur l'avant du kiosque, mais évidemment, ça suffit à le couler.
On pensait qu'il avait été coupé en deux, mais ce n'est pas le cas, en fait.
Ce n'est pas le cas.
Il y en a encore beaucoup à trouver, des épaves de ce genre. On pourrait, les mers en sont pleines, si je puis dire.
Des centaines.
extraordinaire.
N'est-ce pas?
Ça laisse beaucoup d'avenir pour les historiens de la marine.
On en a à faire, oui.
Le roman des phares, présenté par Dominique Lebrun, est publié chez Omnibus. Merci beaucoup de nous avoir apporté vos lumières sur ce sujet qui a été traité, à mon avis, un peu rapidement la semaine dernière.
C'est vrai.
C'est vrai. Merci beaucoup.
Merci.
Déjà, grâce à la musique des Feux de la Rampe, le dernier épisode de cette saga consacrée à Charlie Chaplin toute cette semaine, le grand destin de la semaine. Alors nous avons découvert sa jeunesse à Londres, son arrivée aux États-Unis, sa vie privée et amoureuse tumultueuse, ses grands films. Hier, vous nous avez parlé du dictateur et des temps modernes. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui,
oui,
Franck?
Sur le dictateur, j'ai fini un peu vite hier, mais il y a une chose qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que cette fois, on voit Charlie Chaplin parler. Je vous disais que les temps modernes étaient la dernière apparition de Charlot. Mmh. On entreaperçoit d'une certaine manière Charlot dans le dictateur, puisqu'au début, ce petit barbier dans le ghetto, là, il a tout de Charlot. Et puis donc, vous savez que les circonstances vont le faire monter à la tribune, il est devant cette espèce d'assemblée digne de Nuremberg. C'est un peu une sorte d'Hitler, tout le monde attend le discours, et le discours, ils ne vont pas être déçus, les gens. C'est le fameux appel aux hommes de Charlie Chaplin, qui dit « Je regrette, mais je ne veux pas être un empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni régenter ni conquérir qui que ce soit. J'aimerais, ajoute-t-il, aider chacun si possible. Les chrétiens, les juifs, les noirs, tout comme les blancs. Nous avons tous le désir de nous entraider. Les gens civilisés sont ainsi. Nous voulons vivre de notre bonheur mutuel, pas de notre mutuel malheur. » Et Chaplin, enfin ce personnage qui profite de la circonstance, ajoute, c'est un véritable contrepoint au discours d'Hitler, exactement à la même époque, il faut bien en être conscient. Il ajoute « La voracité a empoisonné l'âme des hommes, entouré le monde d'un cercle de haine et nous a fait entrer au pas de loi dans la misère et dans le sang. La haine des hommes passera et les dictateurs périront et le pouvoir qu'ils ont usurpé au peuple retournera au peuple. » On peut dire que Charlie Chaplin a attendu, il a attendu presque 20 ans, plus de 20 ans pour prendre la parole, mais quand il la prend, ça n'est pas pour rien.
Au cœur de l'histoire.
Sur Europe 1. Europe 1.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Et pour la suite de ce grand destin consacré à Charlie Chaplin, vous nous parliez il y a un instant, Franck Ferrand, du film Le Dictateur, le premier film dans lequel Charlie Chaplin parle alors qu'il s'y était toujours refusé. Un vrai film politique.
D'ailleurs, on lui reproche d'être un peu trop bavard. Vous savez, c'est ce qui est amusant. Tant que Charlie Chaplin était ce moraliste muet qui reproduisait en les grossissant les travers de la société américaine, ça agaçait, mais on voulait bien encore le tolérer. Au moment où il se met à faire la leçon, non seulement aux États-Unis mais au monde entier, tous ceux qui jusqu'alors se sont déclarés contre lui vont se liguer en quelque sorte. Je vous disais depuis longtemps qu'il a beaucoup d'ennemis du fait d'une vie privée très dissolue, du fait d'une réussite professionnelle et financière quasiment sans exemple. Tout ça a créé beaucoup de jaloux, beaucoup d'envieux, beaucoup d'ennemis. Mais à partir du dictateur, on va voir se liguer littéralement ceux qui aux États-Unis considèrent que Charlie Chaplin n'a pas sa place. Il reste, ça paraît fou hein, parce que ça fait quand même presque 40 ans qu'il est arrivé, mais il demeure, qu'on le veuille ou non, cet immigré britannique qui vient des bas quartiers de Londres et qui, d'une certaine manière, n'a jamais véritablement trouvé sa place dans une société hollywoodienne qu'il a contournée par tous les moyens. N'oubliez pas qu'il a créé sa société, sa United Artists. Hein,
bon. Et maintenant, il dérange.
Et pendant la guerre, il va prendre parti, là encore, d'une manière très forte. Vous savez que Goebbels l'appelait ce misérable juif mesquin, avide et méprisable. Il prend la parole à San Francisco pour demander, Charlie Chaplin demande la constitution d'un comité de secours à quoi un comité de secours à l'Union soviétique que vient d'envahir Hitler. Attention, une fois de plus, on va l'accuser de sympathie communiste. Il est vraiment très imprudent, il faut le reconnaître. Et le 22 juillet 1942, il intervient depuis Hollywood par téléphone au cours d'un grand meeting, une espèce de grande réunion comme savent en organiser les Américains au Madison Square Garden de New York. Et le discours de Charlie Chaplin, même s'il n'est que par téléphone, ce discours, là encore, est très fort. Washington, Londres, dit-il en lançant une véritable apostrophe aux capitales du monde encore libre, laissez-nous réaliser ce vœu, la victoire au printemps, dit-il. Tentons l'impossible, n'oublions pas que les grandes histoires dans l'histoire de l'humanité ont été les conquêtes de ce qui paraissait impossible. Et là, c'est la foule entière, vous imaginez ce que c'est Madison Square Garden, hein, c'est l'ancêtre de nos très grandes salles de spectacle, c'est la salle entière qui se lève et qui acclame Charlie Chaplin. Il y a donc bien sûr des ennemis d'un côté, mais de l'autre, il y a tous ceux qui le soutiennent, bien sûr. À la fin de la guerre, il va tourner un nouveau film, alors qui est un, il faut bien dire, c'est un film un peu raté. Mais moi, c'est un film que j'aime beaucoup à titre personnel et qui présente un mérite extraordinaire, c'est de nous montrer Chaplin encore jeune tel qu'en lui-même. Puisqu'il est débarrassé du chapeau melon, de la canne et de la redingote, puisqu'il parle maintenant, puisqu'il est exactement comme il est dans la vie, on peut voir quelle est la subtilité de ce personnage qui joue un peu le rôle de Landru, vous savez. C'est son 77e film, dans les longs métrages, ça n'est que le cinquième en l'occurrence, hein, sur un scénario original d'Orson Welles, qui donc s'est inspiré de cette affaire Landru et qui est une façon de critiquer la guerre, bien entendu. Car sans la Première Guerre mondiale, il n'y aurait pas eu Landru, et l'on laisse entendre dans ce film très parisien, puisqu'il se déroule à Paris, dans une atmosphère très parisienne, on laisse entendre que la guerre est un facteur déstructurant de la société. Alors, encore une fois, un certain nombre d'ennemis vont se lever, vont dire « Mais pour qui se prend Charlie Chaplin? Depuis quand se croit-il autorisé à nous donner des leçons ?» etc. Il n'empêche, plus le temps passe et plus la dimension morale du personnage s'ancre dans l'inconscient collectif. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en 1950, Charlie Chaplin est encore dans la plénitude de ses moyens et dans sa réalisation de grands cinéastes. Le film Les Lumières de la Ville, vous savez, City Lights de 1928, est repris à Broadway. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le magazine Life lui décerne le titre de meilleur film de l'année en 1950. Vous voyez que Chaplin est en train d'entrer, mutatis mutandis, il est en train d'entrer dans la légende de son vivant, bien entendu. Son film suivant va être un mélodrame. Est-ce que c'est le succès de la reprise des Lumières de la Ville qui lui a donné envie de renouer comme ça avec ses premières amours? Toujours est-il que Limelight, ces feux de la rampe dont nous entendons la musique principale, le thème depuis le début de cette semaine, les feux de la rampe sont un grand mélodrame avec cette danseuse et deux petits chaussons de satin blanc, et puis une réflexion aussi sur le devenir de l'artiste, sur le vieillissement de l'artiste. Il y a cette scène absolument magnifique où Charlie Chaplin, qui joue le rôle d'un clown qu'il a bien connu dans sa jeunesse au demeurant, est à côté de Buster Keaton. Ils sont tous les deux là en train de se démaquiller. C'était leur dernière intervention. C'était la fin d'une certaine manière. Est-ce que Charlie Chaplin est en train, sans même le savoir lui-même, de tirer sa révérence peut-être d'une certaine façon? D'ailleurs, il fait dire à son personnage qui maintenant parle et qui maintenant, d'une certaine manière, a la langue bien pendue, il lui fait dire « Nous sommes tous amateurs ». C'est Calvero, hein, le clown qui dit ça dans sa loge. « Nous sommes tous amateurs. Nous ne vivons pas assez longtemps pour devenir autre chose. »
Des feux de la rampe de Charlie Chaplin, le film sorti en 1952. Restez avec nous. La suite et la fin de ce dernier épisode consacré à Charlie Chaplin, c'est dans un instant sur Europe 1.
Europe 1.
Au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand. Et voici maintenant la suite et la fin de cette saga, de ce grand destin consacré toute cette semaine à Charlie Chaplin. Alors vous nous avez parlé il y a un instant du dictateur, des feux de la rampe. Vous vous intéressez aujourd'hui au très grand succès de Charlie
nous
Chaplin.
Nous sommes en septembre 1952. Charlie Chaplin vient d'embarquer sur un transatlantique pour aller une fois de plus en Europe. Il va présenter les feux de la rampe à Londres, à Paris, etc. Et au milieu de l'Atlantique, le commissaire de bord lui signale qu'un arrêt vient d'être pris par les États-Unis. C'est l'attorney général en personne, le ministre de la Justice, qui vient de demander l'ouverture d'une enquête destinée à déceler, je cite, « si la turpitude morale et les affinités politiques de Monsieur Charlie Chaplin permettraient sa réadmission sur le sol américain ». N'oubliez pas qu'il est toujours britannique, lui. C'est un coup de tonnerre épouvantable, incroyable. On l'accuse d'avoir été membre du Parti communiste. On l'accuse de travailler contre les intérêts américains. On est en plein dans ce qu'on appelle la période du maccartisme, vous savez. Alors, le New York Times réagit, bien entendu. Ceux qui ont suivi Chaplin au cours des ans ont du mal à le considérer comme un dangereux individu, écrit le journal. Aucune situation politique, nulle menace internationale ne peuvent abolir le fait qu'il est un très grand artiste qui a procuré des joies infinies à des millions de gens, non pas dans un pays seulement, mais dans tous. Certes, mais ça ne réchauffe pas le cœur de Charlie Chaplin, qui se retrouve exilé, qui va devoir aller s'installer en Suisse. Il faut vous dire qu'il connaît bien la Suisse. Je vous avais dit qu'il était venu plusieurs fois à Saint-Moritz, etc. Eh bien, il va s'installer à Corsier-sur-Vevey, au manoir de Ban, où la population l'accueille, mais véritablement comme un réfugié, vous savez. Et j'ai d'ailleurs reçu un email de la responsable des relations extérieures de ce qui vient d'ouvrir, le Chaplin's World by Grévin, qui vient d'ouvrir justement à Vevey. Le manoir, nous dit cette dame, présente Chaplin, l'homme, l'intime, sa famille, et dans un bâtiment construit sur le domaine, appelé le studio, Charlot, Charlie Chaplin, l'artiste et la reconstitution de certains décors de ses films. C'est un endroit qu'il faut aller voir et que, pour ma part, je vous avoue, n'avoir pas encore visité. Alors, bien sûr que pour Charlie Chaplin, la vie continue d'être assez incroyable. Il reçoit des visites du monde entier. La reine d'Angleterre va l'annoblir. La République française, par la voix d'un grand ministre, Jacques Duhamel, va le faire commandeur de la Légion d'honneur. Mais il n'est toujours persona non grata aux États-Unis et il va falloir attendre 20 années pendant lesquelles il tournera encore Un roi à New York et ce film inachevé qu'est La comtesse de Hong Kong. 20 années pour qu'enfin Hollywood se décide à rendre un véritable hommage à Charlie Chaplin, qui en 1972 est donc reçu à Hollywood pour la soirée des Oscars. 2900 personnalités ont fait le voyage. On lui rend, c'est Jack Lemmon qui lui remet cet Oscar d'honneur pour l'ensemble de son œuvre. Et bien entendu, tout le monde chante à ce moment-là le thème des temps modernes. Disons au revoir à Charlie Chaplin et la semaine prochaine,
alors,
si vous le voulez bien, nous allons parler d'un de nos plus grands souverains, un personnage passionnant dont la vie a été invraisemblable. C'est le roi Louis XV, qui a régné plus de 50 ans sur la France et qui nous réserve, vous allez voir, beaucoup de surprises. Et puis, nous aurons toujours nos récits forts, signés Christophe Dard et Pierre-Louis Lancel.
Et puis Chaplin, s'il vous manque déjà et si vous voulez revivre toute cette semaine consacrée à Charlie Chaplin, rendez-vous demain samedi à partir de 14h sur Europe 1.
Merci beaucoup, chère Anissa, et à lundi donc.
À lundi, c'était Franck Ferrand sur Europe 1.